Bonjour à tous et toutes, et bienvenue dans l'épisode 2 autour de la notion du courage. Aujourd'hui, nous allons développer les clés fondamentales pour enfin oser. On se retrouve juste après l'introduction. Bienvenue sur Sentir, le podcast qui vous accompagne dans votre mieux-être au quotidien à travers des sujets de vie, des exercices de sophrologie, des méditations guidées et des voyages sonores. Je suis votre hôte, Anastasia, thérapeute en sophrologie, sonothérapie et mouvement thérapie. Mon intention ici est de vous guider en vous offrant sur cette plateforme d'écoute des moyens clairs et efficaces pour vous aider à vous reconnecter à vos pleines ressources intérieures. N'oubliez pas de vous abonner dès à présent au podcast pour ne pas rater la mise en ligne d'un nouvel épisode et soutenir mon travail. Belle écoute! Dans ce deuxième épisode autour du courage, nous allons voir des clés concrètes, fondamentales, pour enfin oser sortir de sa zone de confort, prendre confiance. J'aimerais d'abord reparler de la notion de peur, qui est ici importante. Il faut savoir que tout ce qui est nouveau fondamentalement est vu comme inquiétant. Mais notre cerveau est ainsi fait. Notre cerveau reptilien, notre cerveau archaïque, est fait de sorte à que tout ce qu'il ne connaît pas, tout ce qui sort de ses habitudes, ça va allumer quelque chose qui va clignoter, qui va dire « danger, danger, danger », qui n'est pas forcément réel, mais potentiel. Et ce que je dis, c'est censé vous rassurer, parce que c'est normal d'avoir peur quand on fait quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est pour ça qu'on peut parler de cultiver l'audace, cultiver le courage et déprogrammer le cerveau, puisque ce même cerveau est programmé pour éviter le danger et faire que l'espèce survive. Avant de continuer sur les clés, j'aimerais aussi parler de la notion d'échec. Plus nous allons oser et plus nous allons rater. Et paradoxalement, c'est justement parce que nous allons rater des choses plus souvent que nous allons aussi augmenter nos chances de réussite. C'est pas magique, ça s'appelle l'expérience. C'est l'expérience qui nous forge, c'est l'expérience qui nous fait grandir, c'est l'expérience qui nous fait apprendre. Et de nombreux facteurs entrent en jeu, notre personnalité, nos ressources internes, nos ressources externes, nos compétences, notre habitude face à la prise de risque, notre relation au stress, notre relation à la peur, notre relation à l'échec, la confiance en nous, notre capacité à l'activer, nos motivations face à l'action, nos valeurs, l'expérience. C'est de tous ces facteurs dont vont dépendre nos réussites et nos échecs. Et c'est triste parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais on est dans une société qui dévalorise l'échec. Et c'est à se tirer les cheveux parce qu'il n'y a pas de possibilité d'apprentissage sans accepter l'échec. Ça fait partie de nous, de l'humain. Suffit de prendre un enfant qui est en train d'apprendre à marcher, il va tomber en moyenne 250 fois avant de parvenir à marcher. Et cette phrase, je vous invite à vraiment la retenir de cet enfant, cet exemple-là, parce qu'il montre à quel point c'est la persévérance et c'est l'échec sur l'échec sur l'échec qui permet à la fin la réussite et c'est l'expérience. Et une de nos premières expériences en tant qu'être humain, c'est la marche. Et c'est parce que nous sommes tombés plusieurs fois, c'est parce que nous nous sommes relevés, parce qu'on voyait les autres le faire et on a gardé ce but et on n'a pas douté, et on s'est relevé et on a réessayé, réessayé, réessayé jusqu'à réussir. Et aujourd'hui, on marche. C'est une de nos grandes réussites. On ne peut pas parler non plus d'évolution si on n'est pas prêt à échouer. C'est en faisant des tentatives, c'est en faisant des erreurs que nous évoluons. Et mon succès, je le dois à mes échecs. On ne peut pas nier que dans nos sociétés modernes, on évolue dans un confort, dans une sécurité qui est bien supérieure au siècle passé, sans parler de toutes les technologies qui participent à faciliter notre quotidien. Il y a ce complexe parfois où les gens vont venir me parler de courage et me dire « mais pour moi, quelqu'un de courageux, c'est qui fait des grands actes de bravoure ». Et ça, c'est d'ailleurs tout l'objet de l'épisode 1 que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas écouté. Mais seulement, c'est vraiment pas parce que nous ne sommes pas confrontés directement à des épreuves intenses, des épreuves dures comme la famine, comme la guerre, que nous ne sommes pas en mesure de développer notre courage et notre audace par notre propre volonté. Dans nos sociétés, il y a des événements majeurs qui nous ont forcés à sortir de notre zone de confort, à nous confronter au nouveau, que ce soit vécu de manière positive, moins positive, c'est un fait. On peut voir au niveau universel en citant le Covid par exemple. Il a fallu du courage pour continuer à venir travailler, pour accepter de travailler différemment aussi, pour accepter de vivre différemment. Mais au niveau individuel, la perte de l'emploi ou la perte d'une maison peuvent être un exemple d'événement soudain et subi qui force quelqu'un à quitter sa zone de confort pour se confronter à l'inconnu. Et c'est là que les facteurs que je citais précédemment rentrent en compte. La personnalité, mes habitudes face aux prises de risques, ma cartographie du monde, mes motivations, ma gestion du stress. Donc il y a des événements à l'échelle universelle, à l'échelle individuelle, qui sont subis et qui nous obligent à sortir de cette zone de confort et à les puiser dans nos ressources. Mais il est aussi tout à fait possible de ne pas vivre des événements subis et pourtant de décider quand même de faire preuve de courage. Et alors là, ça nécessite d'aller chercher en soi le mouvement juste, celui qui saura animer en nous ce courage d'aller vers. Dans leur livre « Oser, ça change tout », Pierre Portevin et Daniel Kerrigan vont parler de zone de confort, de zone de développement et de zone de panique. Ils expliquent la zone de confort comme la réalité habituelle, automatique. Ils parlent de la zone de développement comme la nouveauté, l'inconnu, toutes les activités qui vont représenter pour nous un défi. Et puis il y a la zone de panique. Et ça, c'est lorsqu'on va se sentir submergé. On va avoir l'impression que nos ressources, elles sont insuffisantes face aux enjeux de la situation, face à ce qu'on est en train de vivre, qu'on n'a pas les moyens de faire face à cette situation. Là, on entre en zone de panique. Et il faut savoir que plus on reste dans la zone de développement, et donc dans cette sphère de l'inconnu, de la nouveauté, mieux on devient et moins la zone de panique est présente. Prenons une personne qui a peur de parler en public. Par exemple, dans la sphère du travail, c'est une personne, imaginons-la, introvertie, qui aime bien les relations sociales, mais qui n'aime pas être le centre de l'attention. Pourtant, elle aime parler en public. Elle en a peur, mais elle aimerait pouvoir être en mesure de parler plus en public. Donc quand son patron va lui proposer de présenter les nouveaux objectifs du mois devant tous les salariés, elle va se dire « bah pourquoi pas ?» Et donc là, elle va passer de sa zone de confort à sa zone de développement, quelque chose de totalement inconnu. Donc imaginez le stress, le cerveau reptilien qui est en train de dire danger, 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 parce qu'il ne connaît pas cette situation, donc l'adrénaline qui monte, qui se diffuse partout dans le corps, et pourtant elle y va, cette personne-là. Et à force de faire des prises de parole en public, eh bien déjà le cerveau va moins être en alerte puisqu'il va prendre l'habitude, donc la personne va être plus en capacité de gérer l'adrénaline, le stress, elle va aussi moins avoir les effets physiques de tout ça. Puis après, ce sera plus forcément des prises de parole en public avec les salariés. Elle fera peut-être même des conférences pour la société, elle ira voir d'autres sociétés. Peut-être même que dans sa sphère personnelle, elle ira prendre le micro pour faire du slam parce qu'elle écrit du slam chez elle et qu'elle aimerait bien diffuser ça un peu plus largement autour d'elle. Donc voilà, en fait, elle va entretenir cette zone de développement et moins tomber dans la zone de panique. Sauf qu'elle peut finir par tomber dans cette zone de panique parce que trop sortir de sa zone de confort, ça prend énormément d'énergie. Et si on n'est pas en capacité de retourner parfois par moment dans sa zone de confort parce que justement il faut se recharger les batteries, eh bien on peut tomber dans la zone de panique parce qu'on n'a plus d'énergie et que c'est dans les moments où on n'a plus d'énergie que les pensées parasites reviennent. Donc il faut avoir conscience que c'est bien d'être dans la zone de développement, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait évoluer, mais c'est aussi bien de retourner dans sa zone de confort et d'alterner les deux. Donc ça, c'était ce que je tenais à expliquer un peu avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet sur la notion d'échec, la notion de peur, sortir de sa zone de confort et ses différentes zones, la zone de confort, la zone de développement, la zone panique. Ce serait intéressant dans votre quotidien sur les prochaines semaines de voir où vous vous trouvez dans telle ou telle situation. Est-ce que vous êtes dans votre zone de confort? Est-ce que vous êtes dans votre zone de développement? Quels souvenirs vous avez d'un moment où vous avez été clairement dans votre zone de panique à vous sentir submergé et voilà? Comprendre en fait ce qui s'est passé et de simplement d'oser en fait. D'oser sortir de sa zone de confort mais aussi d'oser y revenir. En consultation, il y a des personnes assez fréquemment en fait même qui vont avoir tendance à se flageller en se disant « j'ai réitéré un schéma que j'y aimais pas, j'étais fière de moi pourtant parce que je tenais le bon bout, etc. » Et en fait, bah, c'est pas grave. Des fois ça fait du bien aussi de revenir à ce qu'on connaît, de revenir à quelque chose de cocon. Alors Le but, c'est de savoir qu'on n'y reste pas, qu'on évolue de plus en plus. Et puis même cette zone de confort aussi, elle évolue de plus en plus. On est des êtres en perpétuelle évolution. Et en fait, ce qui est génial, c'est de se permettre de rentrer dans cette zone de développement. Il y en a qui ne le font pas, pour X ou X raisons. C'est pas grave, ça se travaille. Je ne m'étale pas plus et nous rentrons dans le vif du sujet. Comment faire preuve de courage ? Face à une situation, si l'on cherche à faire trop d'un coup, on risque de ne pas aller bien loin. Prenons un exemple, mon objectif c'est de changer de régime alimentaire et de supprimer toute chair animale. Je pourrais très bien me dire, dès demain, j'arrête de manger de la viande et du poisson. Mais c'est très radical. Et dans la plupart des cas, le fait de procéder de façon aussi drastique, ça serait une grave erreur parce que face à l'ampleur de ce changement dans mon hygiène de vie, je risque justement d'activer sans le vouloir le mécanisme d'auto-sabotage qui va me faire complètement paniquer. L'ampleur de la tâche est tellement énorme, je vais aussi véhiculer tellement de frustration en moi, puisque ce n'est pas progressif, que je risque de retourner dans ma zone de confort, mais même de m'y enterrer. Je passe même pas de ma zone de confort à ma zone de développement en faisant ça, je passe de ma zone de confort à ma zone de panique pour revenir dans ma zone de confort. La clé, comme dans beaucoup de choses, c'est l'équilibre. Ça c'est quelque chose, si vous me connaissez déjà, vous le savez, j'en parle tout le temps, en plus de cette fameuse théorie des petits pas. Ne pas démarrer à 100 km/h et préférer y aller doucement. Le but, c'est pas de faire le marathon, c'est de rester le plus longtemps dans une zone de développement. Pareil, il faut pas non plus avoir des objectifs trop vagues. Si mon objectif est trop vague, si j'ai pas fait de plan, je vais généralement générer de l'inertie, de la procrastination. Donc c'est important d'avoir un plan clair. Pourquoi je le fais? Quelle est mon intention? Parce que c'est ça qui va me donner l'énergie et l'enthousiasme pour aller faire ce que j'ai à faire aussi. C'est ça qui me fera tenir. C'est ça ce qui me fera rester dans ma zone de développement. Si je ne sais pas pourquoi je le fais, foncièrement pourquoi je le fais, il y a fort à parier que j'arriverai pas à continuer sur la durée. Donc la clé numéro 1, ne pas être trop téméraire. La clé numéro 2, ne pas avoir d'objectif trop vague. La clé numéro 3, je repartirai sur la théorie des petits pas, qui est quasiment un indispensable pour tenir sur la durée. Souvent, vous venez en cabinet avec un objectif bien défini et l'envie d'avoir fait 50 pas sur les 150 finales en sortant de la première séance. Et c'est tout à votre honneur. Moi, j'aime bien voir cette motivation. Mais il faut remettre aussi les choses dans leur contexte, dans leur réalité et dans votre réalité quotidienne. Plus ces pas chez vous sont petits et plus ils vous sont accessibles. Et s'ils vous sont accessibles actuellement, ils peuvent être pratiqués tous les jours. Et s'ils peuvent être pratiqués tous les jours, vous verrez beaucoup plus vite les bénéfices. Et ceux-ci seront d'autant plus solides. C'est pour ça que j'insiste énormément sur ces petits pas. C'est que déjà, on n'est pas magicien. Et que les objectifs de vie ne se règlent pas en deux séances. Que ce soit en psychothérapie, en sophrologie, dans toutes les thérapies alternatives aussi. Ça demande du temps, ça demande de l'implication, ça demande des changements, de la motivation. Je pourrais très bien, à la fin d'une séance, vous dire « Bon bah, vous me faites ça, vous me faites ça, vous me faites ça. » Et puis on se revoit dans deux semaines. Ce serait trop. Et l'important, c'est de vous donner un sous-objectif qui soit surtout accessible aujourd'hui pour vous. J'en viens donc à ma quatrième clé, la répétition. Plus je répète des actes audacieux, plus ils changent ma manière de fonctionner. Rien ne s'acquiert en une nuit, et c'est par la répétition que je programme d'une autre manière mon cerveau déjà, que j'intègre une routine qui est plus saine pour moi aussi, et que je suis capable de durer encore une fois plus longtemps dans ma zone de développement et d'oser encore plus. Je dirais que la cinquième clé pour réussir à faire preuve de courage, c'est aussi de s'entourer des bonnes personnes, de ces personnes qui vous soutiennent. C'est pas pour rien qu'on dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Si on peut faire les choses seul et sans soutien, on remarque quand même souvent que lorsque d'autres personnes croient en nous et en notre capacité à réussir, cela va nous énergiser. C'est super important de s'entourer de personnes qui croient en ce qu'on fait, qui nous écoutent, qui nous soutiennent, qui nous poussent et qui nous boostent. La sixième clé, et pas des moindres, être ami avec soi-même. Il est fondamentalement important de devenir ami avec soi-même pour moins, voire même plus, souffrir de la notion d'échec. Parce que ce qui nous fait souffrir dans l'échec, c'est pas l'échec en lui-même. C'est ce qu'on va voir de nous dans l'échec. C'est ce qu'on va se dire de nous dans l'échec. Et la meilleure manière de ne plus souffrir de la douleur que l'on associe à l'échec, c'est de trouver en nous une zone de sécurité, un espace intérieur où on peut se rassurer. Et on ne peut pas être dans cet espace intérieur sécurisant si on est notre propre saboteur, si on est notre propre persécuteur. Et si c'est votre cas, il faut absolument changer sa façon de parler avec soi-même. Plus on est dur avec soi-même, et moins on y arrive. Bien sûr, on peut, il y a des personnes, toujours des contre-exemples, de personnes qui sont extrêmement perfectionnistes avec elles-mêmes et qui arrivent à aller loin. Mais je pose la question du bonheur dans ces cas-là, de la sérénité, de la paix. Est-ce que ces personnes-là, ce sont des choses qu'elles ressentent pour elles, vis-à-vis d'elles-mêmes? Je dirais que la septième clé, c'est que pour avoir l'énergie nécessaire qui permette d'être dans ce courage, il faut aussi que je sois capable de produire davantage d'énergie. Le cerveau, il aime, enfin, il adore les habitudes et les routines. Plus on est dans l'automatisation et plus on met notre corps en économie d'énergie. Et ça, il adore. Je pense que le mot flemme qui revient de façon assez récurrente dans notre langage aujourd'hui veut en dire beaucoup. Tout ce qui va être fait dans la conscience et en conscience va demander beaucoup plus d'énergie. Donc autant vous dire que le courage et l'audace va vous en demander beaucoup, sauf que la bonne nouvelle, c'est que plus on consomme de l'énergie et plus on augmente aussi sa production. Plus je sors de ma zone de confort et plus j'ai d'énergie en moi. Si je suis quelqu'un qui reste dans ses habitudes, qui sort pas de sa zone de confort, j'ai beaucoup moins d'énergie pour en sortir. Je vous invite à méditer là-dessus. Ensuite, la huitième clé, je dirais qu'il faut apprendre à échouer. Il faut arrêter de crucifier l'échec. Il y a une phrase qui dit que soit nous apprenons à échouer, soit nous échouons à apprendre. Il est important de changer son rapport à l'échec pour oser. La peur de l'échec, elle est essentielle. Elle est normale et elle est essentielle. C'est essentiellement une peur du rejet social. C'est ce que je disais un peu précédemment dans mes propos, mais cette peur du rejet social, c'est une émotion qui est toxique. Parce qu'au lieu de nous sentir responsables de nos actions, de notre manque de préparation aussi peut-être, ou de notre manque d'effort qui a amené cet échec, on va plutôt amener une émotion de honte qui va nous faire nous sentir mal dans notre peau. Et on va se sentir alors non seulement coupable de nos actes, mais pire encore, d'être qui nous sommes, d'être comme nous sommes. Et pareil, si on est des persécuteurs par excellence de soi-même, et qu'on n'est pas du tout un ami bienveillant de soi-même, ça fait des dégâts. Je vous dis ça parce que quand vous vivrez l'échec, j'aimerais que vous preniez du temps pour aussi considérer la honte chez vous et pour réussir à transformer ce sentiment de honte. Moi, aujourd'hui, quand je vais vivre ce que je vais vivre comme un échec, eh bien, je réagis plus du tout comme avant je réagissais. Avant, j'avais des comportements extrêmement destructeurs avec mon corps. C'est pas pour rien que je me suis spécialisée dans la relation au corps. Aujourd'hui, si je vais vivre un moment d'échec, un moment difficile, je vais prendre du temps pour moi et je vais faire des choses qui, aujourd'hui, avec le temps, je comprends, me font du bien. Je vais faire des séries de mouvements, je vais juste me prendre dans les bras aussi, juste m'accorder des temps de silence, parce que ces temps de silence, j'avais tendance à les fuir, mais ils me font énormément de bien. Et je vais me permettre aussi de revivre la situation sous les différents regards des protagonistes qui pouvaient être présents. Moi, comment je me suis vue moi-même, comment je me suis vue dans l'action et dans l'échec, ce que l'autre personne a pu potentiellement voir, pas à travers mon regard, mais à travers le sien, vraiment, mais ça c'est tout un exercice, etc. C'est énormément important de contacter l'amour dans ces moments-là. Et pas la honte, pas la maltraitance, pas la colère, pas la frustration. C'est bien sûr, hein, c'est jamais agréable d'échouer, c'est jamais agréable de se voir dans ce genre de situation. Plus on verra l'échec comme un moyen d'évoluer et justement d'apprendre et juste d'être plus fort, et plus on va changer notre regard face à l'échec, et plus en fait l'échec ça restera juste un effet secondaire qui peut arriver pendant que je fais une action. C'est pas grave. Il faut toujours retourner à l'enfant qui apprend à marcher. On a été cet enfant un jour. Il faut juste le recontacter à un moment donné. La neuvième clé, ça serait de travailler sa peur. Pareil, on en a déjà parlé. La première raison pour laquelle les gens craquent sous la pression, ça va être l'inquiétude. Et ces peurs, ces inquiétudes vont nous priver d'une bonne partie de notre énergie. La peur, c'est une énergie basse. L'amour, c'est une énergie haute. Il va y avoir des choses assez intéressantes à mettre en place aussi dans son quotidien si on est quelqu'un qui vit foncièrement la peur. La méditation, ça peut être un bon moyen d'apprendre à gérer les inquiétudes parce que ça va me permettre de développer à la fois ma qualité de présence dans les choses, mais aussi de me détacher de ce que je vis. Faire la vaisselle, c'est une forme de méditation. Marcher, c'est une forme de méditation. Prendre sa douche, c'est une forme de méditation. Et ce sont des choses qui nous font du bien. Ce sont des choses qui nous permettent de nous reconnecter à ce que l'on est. Et donc de nous reconnecter à notre source. Et donc clairement pas à la peur. Lorsqu'on est sous pression, on va avoir des pensées négatives qui peuvent venir comme « Oh mon Dieu, ce sera affreux si j'échouais ». Sauf que si ça surgit pendant que je fais ma performance, forcément qu'est-ce que je vais avoir comme sentiment ? Je vais avoir un sentiment de peur, mais le fait de reconnaître cette pensée, de la nommer, va me permettre après de la relâcher. Une émotion, ça dure très peu de temps. Il faut savoir que ça dure à peu près 5 secondes. Ce qui la fait durer, c'est le mental. qui va tourner autour de cette émotion. C'est ça qui fait durer une émotion dans le temps. Le fait de dire, ok, là j'ai cette pensée, elle me fait ressentir de la peur, et de se reconcentrer sur ce qu'on fait et non plus sur cette pensée, ça nous permet d'économiser notre énergie, de ne pas nous consacrer autour de l'énergie de la peur, donc en énergie basse, et de continuer à performer. De cette manière, je me débarrasse d'une pensée. Alors attention, se débarrasser de ces pensées-là, c'est pas du tout la même chose que d'essayer de les ignorer, de les écarter, de les supprimer. Essayez d'écarter une pensée, essayez de la supprimer, et vous allez voir qu'elle prend toute la place. C'est pour ça que c'est super intéressant d'au contraire accueillir, hein, quand on parle d'accueillir, c'est ça, c'est de reconnaître, nommer et relâcher. De cette manière, je suis en capacité de me mettre à distance et de me reconcentrer sur ce que je fais. Et à force de faire ça, on acquiert une autonomie au sein de soi-même qui est assez intéressante. C'est une ressource intérieure qu'on a tous en nous. Les pensées, les émotions, ce sont ce qu'on va appeler des états éphémères qui sont là à un moment T et dont on peut se débarrasser. C'est pour ça qu'on parle beaucoup dans le développement personnel, en psychologie, de ne pas s'identifier à ses pensées, à ses émotions. La 10e clé, pour faire preuve de courage, je parlerai de motivation. Pour entreprendre, la motivation, elle a une part importante. Si j'ai une motivation qui est haute, parce que j'ai aussi des objectifs qui sont clairs, et un plan qui est clair, eh bien je vais me sentir capable d'entreprendre des choses qui sont difficiles pour moi. Je vais avoir l'énergie pour les entreprendre. Si ma motivation, elle est basse, entre autres peut-être parce que mon objectif est trop vaste, il n'y a pas de plan, et il n'y a pas vraiment d'attention concrète. Et moins je vais être capable d'entreprendre ces choses difficiles, parce que de toute manière, j'ai pas l'énergie et je suis pas dans la bonne énergie. La 11e clé, ce serait de prioriser ses désirs et clarifier ses paradoxes. Vous voyez, pour parler d'un paradoxe personnel, j'ai très fortement envie de déménager, notamment dans le sud de la France. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer ici et j'ai pas envie de faire une croix dessus. On pourrait se dire, je peux toujours déménager et développer aussi toujours sur Paris puisque j'ai un pied à terre ici. Mais ce serait beaucoup moins évident, ça serait beaucoup plus long et très honnêtement, je l'envisage et je le sens pas du tout comme ça. Par contre, j'ai clarifié ce paradoxe récemment en me disant, je peux toujours déménager dans les environs mais dans un endroit qui me convient plus, dans un espace, un environnement qui me convient plus. Et puis, déménager là où j'ai envie de déménager plus tard, dans quelques mois, dans quelques années, on verra. C'est juste que même si c'est un de mes désirs de déménager dans le sud et d'avoir ce cadre de vie qui me fait rêver depuis des années, eh bien c'est pas ma priorité à l'heure actuelle. Et le fait de cadrer, ok là je sais que je suis en train de vivre un paradoxe avec ce déménagement, mais en même temps je vais prioriser et ma priorité là c'est de me développer professionnellement, que ce soit dans la partie thérapie et dans la partie Ringana, qu'en fait tout est devenu clair, précis, et quand j'ai cadré ça, il y a énormément de choses professionnellement qui se sont ouvertes. Mais parce que j'ai permis ça. Je ne sais pas du tout si cet exemple personnel a pu vous éclairer quand je parlais de clarifier ses paradoxes et de prioriser ses désirs. Écoutez votre cœur. Apprenez à écouter votre cœur, apprenez à écouter votre corps. La 12e clé, ça serait de prendre le temps de savourer ses victoires et ses plaisirs. S'il vous plaît, prenez le temps d'être fier de vous. Prenez le temps de vous dire que vous êtes fier de vous. Je devrais même vous imposer quelque chose. C'est que après avoir réalisé une action qui, pour vous, était difficile, bien sûr encore une fois à votre échelle, même dans les petits moments du quotidien, prenez un moment pour vous regarder dans le miroir, vous regarder dans les yeux et vous dire merci, je suis fière de moi, je suis fière de toi, faites ce que vous voulez, mais vous vous dites. C'est super important parce que le cerveau adore se souvenir du négatif, adore retenir le négatif, donc c'est à nous d'avoir cette discipline de se dire non là, attends, il s'est passé quelque chose de dingue, je suis vraiment fière de moi, donc je vais me le dire, je vais l'honorer ça. Et le fait de célébrer, le fait d'honorer ces victoires, ces grandes, ces petites victoires, ça va aussi permettre d'atténuer la peur encore, de la laisser encore plus loin. Et je dirais que la 13e clé, c'est d'arrêter de se plaindre et d'apprendre à se responsabiliser un peu plus. Parce que quand je suis dans la plainte, je ne suis ni dans l'action, ni dans ma responsabilité. Par exemple, si mon acte courageux, ça va être d'acheter une maison, de vouloir acheter une maison, si je suis dans la plainte, je vais dire « je n'ai pas assez d'argent » ou « de toute façon, il vaut mieux être deux pour ça ». Pareil, si mon acte courageux, c'est de changer de métier pour quelque chose qui me plaît plus, je vais dire « de toute façon, je suis bonne à rien, je ne suis pas assez intelligente ». Si je souhaite demander une augmentation, je vais dire « ils n'accepteront jamais ». Vous voyez un peu le topo ? C'est-à-dire que Je réduis à néant toute motivation, toute possibilité que ce soit positif pour moi et toute action. Parce qu'en étant dans ces phrases-là, je vais pas du tout être dans l'action derrière. C'est une excuse pour ne pas être dans l'action. Mes mots peuvent être un peu forts, hein, mais en étant honnête avec soi-même, on se rend compte qu'on se cache beaucoup dans la plainte et la victimisation, justement aussi pour éviter d'être dans l'action. On peut avoir des bénéfices secondaires, et on a souvent des bénéfices secondaires dans des situations qui sont difficiles. C'est important de le reconnaître. La plainte, elle enferme, toujours. Et ce qui est dommage, c'est qu'elle nous enlève aussi notre part de responsabilité et notre propre capacité à agir pour quelque chose qui nous fait vibrer. Certes, au vu de ma situation, c'est peut-être difficile de pouvoir acheter un appartement. Mais je peux quand même déjà m'y intéresser de plus près et de voir concrètement où j'en suis et ce que je peux faire en l'état actuel. Certes, changer de métier, ça peut faire peur. Mais si j'ai les yeux qui brillent quand j'en parle, si je sens mon corps vibrer quand j'en parle, si je suis suffisamment passionnée, eh bien, il n'y a rien qui devrait m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que ça, c'est le cœur qui parle et le cœur, c'est beaucoup plus fort que le mental. Et là encore, dans ce genre de situation, c'est normal de ressentir de la peur. On est dans un métier que notre cerveau connaît, une routine que notre cerveau connaît, et là on veut totalement chambouler ça, on veut changer la routine. Forcément le cerveau il va se remettre à clignoter et mettre danger potentiel, danger potentiel, danger potentiel. Le but c'est de le reconnaître et de savoir ce qui nous appartient et ne nous appartient pas. Et dès lors qu'on sait ça, on sait qu'on peut avancer. Pareil pour quelqu'un qui veut se faire augmenter mais qui se dit que de toute façon ils l'augmenteront pas puisque c'est une société de cons. Par exemple, eh bien... Peut-être qu'effectivement, ils ne l'augmenteront pas parce que c'est une société de cons. Mais là, ce qui est important, c'est le fait d'avoir osé demander cette augmentation. On est en droit de demander une augmentation. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas retenir l'échec, c'est déjà de retenir la réussite, parce que la réussite, c'est pas forcément le résultat de est-ce qu'ils vont augmenter ou pas, c'est déjà d'avoir réussi à oser demander. Ça, c'est déjà une première réussite. Donc c'est déjà de célébrer ça. Et ensuite, c'est de se dire, j'ai déjà posé la première pierre. Et même s'ils m'ont dit non là, peut-être que ça les fera réfléchir pour dans quelques mois. Donc ça, c'est quand même une deuxième réussite aussi. Donc vous voyez que même dans l'échec, hein, y a des réussites. Et j'irai même plus loin en disant que la troisième réussite, ça serait de se dire, waouh, là, je me suis suffisamment respectée et je sais suffisamment ce que je vaux pour avoir osé demander. Et donc ça veut dire qu'on a déjà un regard sur soi qui est positif. Je mérite cette augmentation. Avant de terminer ce podcast, j'aimerais parler donc de travailler son regard et son état d'esprit. Parce que ce qu'il va vraiment falloir mettre en avant, c'est ça. Pour être en posture d'oser, et c'est pas pour rien que je parle de posture ici, c'est qu'il faut travailler son état d'esprit et sa manière de penser. Dans le livre « Oser, ça change tout », Pierre Portevin et Daniel Kerrigan ont révélé quelques exemples issus de recherches scientifiques qui sont assez intéressantes et que j'aimerais partager avec vous. Notamment le fait de penser que vieillir est mauvais peut diminuer l'espérance de vie de 7 années et demie par rapport à ceux qui ont dans l'idée que vieillir est une bonne chose. 7 années de vie, c'est énorme. Simplement, c'est pas vraiment le bon terme, mais simplement parce que on a pensé ça, on a entretenu ça et d'une certaine manière on a aussi programmé nos cellules comme ça. Ça va très très loin. Aujourd'hui en neurosciences, de toute manière, on a une avancée qui est fulgurante et qui est... Enfin, d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vraiment à creuser là-dessus, c'est assez intéressant. Et du coup, ça fait aussi revoir sa posture. Et cette étude, elle montre bien qu'adopter une attitude positive face à des événements aura aussi plus d'impact positif. Par exemple, la pression artérielle basse va donner 4 années d'espérance de vie de plus. Avoir aussi un indice de masse corporelle bas et le fait de faire de l'exercice va donner entre 1 et 3 années d'espérance de vie en plus. Mais la posture positive, avoir une posture positive dans la vie, ça donne 7 années et demie d'espérance de vie en plus. C'est fou. Je vous laisse vraiment avec ça parce que ça fait réfléchir. La puissance de la visualisation, elle est aussi impressionnante parce que les personnes auxquelles on a demandé pendant une semaine de s'imaginer en train de faire un exercice de mise en condition physique dans un laboratoire, ils vont gagner quand même 30% de force. Ça aussi, pareil, c'est fou, ça montre à quel point on est capable de manipuler le cerveau dans le bon sens. Pareil pour le nombre de calories que l'on pense contenues dans certains aliments et qui vont affecter notre réponse métabolique et hormonale, indépendamment bien sûr du nombre réel de calories. Je dis pas que c'est magique, il n'y a pas que ça. Il ne suffit pas d'avoir une pensée spécifique et manipulable pour tout et notre vie va changer. Mais on voit quand même que l'impact de la pensée positive et de la visualisation a de vrais résultats. De toute façon, je vous partage tout ça simplement pour vous faire comprendre quoi ? Que notre état d'esprit et que la manière dont on perçoit l'expérience va changer fondamentalement l'apprentissage et le résultat. Mais pour changer et pour oser, il faut croire en sa capacité à évoluer. La décision vous revient donc de conduire votre vie depuis le siège passager ou la place conducteur. Donc voilà, on a vu les clés dont je voulais vous parler pour faire preuve de courage. J'espère que ça n'a pas été trop long, que ça n'a pas été trop décousu aussi, puisque j'ai vraiment fait ça avec l'élan du cœur pour le coup. N'hésitez vraiment pas non plus, que ce soit sur mon post Instagram ou en commentaire ici sur votre plateforme d'écoute, de me laisser un petit commentaire, une petite notation, ça me ferait plaisir de vous lire, de vous voir. J'espère que cet épisode vous aura plu, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas non plus de vous abonner au podcast pour rester informé des prochains épisodes et merci pour votre écoute. À très vite sur Sentir, le podcast qui vous aide au quotidien.